Voilà, on m'a dit qu'il n'était pas utile que je prenne la parole parce que vous aviez tout dit dans les groupes. Donc nous allons chanter un dernier chant. Il y aurait bien évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire et on ne fera qu'esquisser certaines d'entre elles sur les 12 premiers versets de ce psaume 103. Et en particulier sur le verset 3 qui va nous intéresser. Et c'est en tout cas sur le verset 3 que je vais focaliser notre attention maintenant. Sur le verset 3 en général et en particulier à la fin sur la question de la guérison. Vous l'avez compris, cette réflexion s'inscrit dans la réflexion générale que nous avons entamée hier dans le cadre du week-end d'église avec cette question « Faut-il encore lire l'Ancien Testament ?» On y a réfléchi hier, c'était bien évidemment volontairement provocateur et on est rapidement arrivé à la question qui émane de cette première question « Comment bien lire l'Ancien Testament ?» Une fois qu'on a dit « Oui, il faut lire l'Ancien Testament. » en argumentant, mais je ne reviens pas là-dessus. C'est donc en réponse ou en application à certains des principes qui ont été énumérés hier en fin d'après-midi, des principes de compréhension, d'interprétation, d'application du texte biblique en général, mais de l'Ancien Testament en particulier, que j'ai imaginé ce canevas de questions pour ce matin, et puis que j'aimerais dire maintenant quelques mots sur le psaume 103, en tout cas sur quelques aspects du psaume 103. Je ne le relis pas, je pense que vous l'avez tous relu ou lu dans les groupes. Simplement dire quelques précisions sur ce que David dit donc au verset 3, et ce qu'il dit avant d'y arriver pour préparer cela. David n'affirme pas au début de ce psaume que son âme bénit l'Éternel. C'est parfois comme ça qu'on le lit. Mon âme bénit l'Éternel, comme une affirmation. Je suis allé à la pêche, mon âme bénit l'Éternel. J'affirme c'est pas la même chose, mais j'affirme voilà quelque chose. C'est pas de cela dont il s'agit ici. En réalité, David se parle à lui-même, comme ça peut nous arriver, à haute voix ou pas, il se parle à lui-même, il parle à son âme, il s'exhorte et il se demande, et il demande à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Mon âme, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Bénis l'Éternel. Bénir Dieu, c'est simplement ici dire du bien de Dieu. Dans notre psaume, donc, David va tout d'abord se motiver, se stimuler, exhorter son être tout entier à dire du bien de Dieu. Et donc, il s'exclame, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. » David veut dire du bien de Dieu et il désire être vrai, il désire être authentique, il désire être entier, il désire que tout son être participe à ce mouvement. Et son souci principal serait d'oublier quelque chose. Serait d'oublier quelque chose qui serait grave à ses yeux, ce qui serait grave à ses yeux, d'oublier un des bienfaits de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, au verset Dieu, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là aussi, ce n'est pas une affirmation que David dit, ce n'est pas je bénis Dieu et je n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David ne va pas seulement s'exhorter à bénir Dieu, mais il va tout au long de ce psaume donner des raisons qui font que Dieu est digne d'être béni, qu'il est digne d'être loué et adoré. Et la suite du psaume 103, à partir du verset 3, jusqu'à la dernière phrase du psaume où il reprend « Mon âme bénit l'Éternel », David va énumérer une succession de raisons qui le poussent à dire du bien de Dieu. David compte les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu, c'est peut-être l'antidépresseur le plus puissant au monde. Nous connaissons bien le cantique qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Mon âme, es-tu abattue ce matin? Si c'est le cas, pense au bien que Dieu t'a fait jusqu'à ce jour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. C'est ce que fait David dans notre psaume, il compte les bienfaits de Dieu. Il contemple tout ce que Dieu a fait pour lui et il ne peut que s'exclamer « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et la première raison que David donne de dire du bien de Dieu, c'est au verset 3, le pardon de Dieu dont il bénéficie. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, dit David, et qui guérit toutes tes maladies. David dit ici que le pardon de Dieu est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que le pardon de Dieu est complet, c'est dire trois choses. C'est dire premièrement que le pardon de Dieu est entier. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il pardonne entièrement. Il pardonne complètement la faute. Pas à moitié, pas aux deux tiers, pas aux trois quarts, pas même à 99,9%. Il pardonne la faute entièrement, globalement. Le pardon de Dieu est complet. Quand Dieu passe l'éponge sur une faute, il ne reste plus rien. Voilà ce que David dit ici. Malheureusement, bien souvent, quand Dieu nous pardonne, c'est nous parfois qui avons du mal à nous pardonner nous-mêmes. Dieu a tiré un trait, Dieu a annulé la dette, c'est une image qui est utilisée dans la Bible pour parler du péché, et l'annulation de la dette pour parler du pardon. Dieu a annulé la dette de notre faute, mais nous continuons à nous sentir coupables. Nous continuons à agir comme si nous étions encore coupables de la faute que Dieu a pourtant pardonnée. Nous connaissons, je pense, pour la plupart, ce beau verset qui se trouve dans le prophète Michée, avec une belle image, on a parlé de l'importance des images hier, d'une belle image qui nous dit que quand Dieu pardonne les péchés de son peuple, il les jette au fond de la mer. C'est là aussi une image, bien sûr. Il les jette au fond de la mer. Il les éloigne de nous. D'une certaine manière, aussi loin qu'on peut l'imaginer. Hein, pour le psalmiste à l'époque, le fond de la mer, c'est comme pour nous le bout de l'univers, d'une certaine manière. Voilà ce que Dieu fait. Ne nous spécialisons pas dans le repêchage de ce que Dieu a envoyé au fond de la mer, de ce que Dieu a définitivement éloigné de nous, comme David le dit un petit peu plus loin dans ce même psaume en utilisant une autre image, quand il dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Quand Dieu pardonne, ce qu'il déclare pardonner est entièrement pardonné. Dire que le pardon de Dieu est complet, c'est deuxièmement dire que son pardon est tout azimut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, dit David. Ce n'est pas juste un pardon entier, mais c'est aussi un pardon pour chacune des fautes. Toutes tes fautes. Pas juste quelques-unes, ni même beaucoup, mais toutes, les petites comme les grandes. Y a-t-il quelque chose qui soit hors de la portée du pardon de Dieu ? C'est en tout cas ce que croyait le fils prodigue dans la parabole bien connue. Nous lisons dans l'évangile de Luc, le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Face à certaines de nos fautes, à certains de nos manquements, il est parfois facile de croire que nous sommes allés trop loin, que nous avons dépassé le point de non-retour peut-être. En tout cas, Satan ne peut pas empêcher Dieu de nous pardonner nos péchés. Par contre, il met tout en œuvre et il travaille sans relâche à nous faire croire que nous avons dépassé ce point de non-retour. Chers amis, ne tombons pas dans cette ruse subtile du diable. Parce que quand Dieu pardonne celui qui se repent, il le pardonne entièrement et il pardonne chacune de ses fautes. L'apôtre Jean, nous avons cité ce texte hier, dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et il y a quelqu'un qui vivait au 7e siècle et qui s'appelait Isaac le Syrien et qui a dit « Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné sinon celui dont on ne se repent pas. » Y a-t-il un péché que Dieu ne pardonne pas ? Oui, celui dont on ne se repent pas. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne le pécheur qui se repent. Dieu lui pardonne tous ses péchés, à l'image du Père dans la parabole du Fils prodigue, qui accueille son Fils, qui pourtant n'y croyait plus, qui l'accueille les bras ouverts. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je ne suis pas digne d'être ton fils. » Et le Père dit, « Mon fils est revenu à la vie. » Je peux tomber bas, je peux tomber très bas, je peux même tomber le plus bas possible, c'est-à-dire toucher le fond. Je resterai toujours à la portée de la grâce de Dieu. Et au brigand crucifié pour qui il ne restait pas quand même beaucoup d'espoir, Jésus dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, Dieu est toujours prêt à pardonner celui qui se repent. C'est ce que j'ai appelé un pardon tout azimut, un pardon à 360 degrés, un pardon qui englobe chacune de nos fautes, un pardon qui est toujours accessible à celui qui se repent. Dire que le pardon de Dieu est complet, c'est troisièmement, j'ai dit que c'était trois choses, c'est troisièmement dire que le pardon de Dieu est durable. On aime bien ce mot, hein, aujourd'hui, durable. On fait beaucoup de choses dans l'optique que ça dure. Parce que pendant des décennies, on ne l'a pas fait dans cette optique-là. Il est question ici, dans ce que je vais dire ici, d'efficacité. Et d'efficacité à long terme. Pas juste aujourd'hui et demain, et ensuite Dieu change d'avis. À long terme. Pour l'éternité. Et nous avons donc ici la troisième facette de ce pardon complet. On a parlé de Dieu qui pardonne entièrement, la faute en entier, qui pardonne chacune de nos fautes, et puis qu'il les pardonne pour l'éternité. Ici, nous disons que son pardon dure à toujours. les fautes que Dieu éloigne de nous ne peuvent plus jamais nous rejoindre. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, hein, et vous pouvez essayer de prendre l'Est et l'Ouest, et puis de, ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller ensemble. Là, et c'est comme ça. C'est ça l'efficacité du pardon de Dieu. C'est pour toujours, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Alors je l'ai dit, mais parfois nous nous spécialisons dans le repêchage de ce que Dieu a pardonné. Mais quand c'est le cas, ce que nous faisons quand nous allons repêcher la faute, hein, en tout cas nous nous sentons coupables, nous continuons à agir comme si nous étions encore coupables de cette faute-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que je ressente cette culpabilité n'annule pas le pardon de Dieu si je me suis repenti de cette faute. Hein, ce n'est pas parce que j'ai été la repêcher que cette faute est à nouveau activée et qu'il faut que je m'en repente dans un cycle sans fin. Ce n'est pas ça. Cette mauvaise habitude que nous avons parfois n'annule pas le pardon de Dieu qui est efficace pour l'éternité. Et jamais Dieu ne sortira d'un tiroir ou d'un placard une faute comme ça qu'il avait gardée en réserve, hein, pour nous coincer au dernier moment, pour nous confondre. Ce qu'il pardonne est pardonné à jamais. Oui, mon âme, bénis l'Éternel, bénis Dieu, car son pardon est complet. C'est un pardon entier, c'est un pardon pour chacune de mes fautes, et c'est un pardon pour l'éternité. Et c'est ici qu'on arrive à la deuxième partie du verset 3. Et qu'il faut parler maintenant de cette deuxième phrase où David dit « qui guérit toutes tes maladies ». C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Qu'est-ce que David veut dire ici? Est-ce qu'il parle de maladie? Est-ce qu'il parle de péché? Qui guérit toutes tes maladies? Est-ce que ça veut dire que Dieu guérit tout? Que Dieu guérit toujours? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette affirmation qui guérit toutes tes maladies? J'aimerais d'abord affirmer que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu peut pardonner tous les péchés, chacun, entièrement et pour l'éternité, alors rien ne lui est impossible. Il peut certainement guérir toutes mes maladies. C'est une possibilité et certainement pas une impossibilité pour Dieu. Je crois et nous croyons en un Dieu qui guérit, mais qui guérit selon sa volonté. Pour bien comprendre la deuxième partie du verset 3, il faut comprendre quelque chose de la poésie hébraïque dont nous avons parlé hier, et je vais maintenant m'appuyer sur deux, trois choses que j'ai dit hier après-midi. Je rappelle que près d'un tiers de l'Ancien Testament est écrit sous forme poétique. Un tiers, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Sous forme poétique, et cette poésie hébraïque, elle a ses propres codes, elle a ses propres règles, elle fonctionne d'une certaine manière et d'une manière qui est différente de la poésie à laquelle nous sommes habitués, avec les rimes, les rythmes, les pieds, les machins. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la poésie hébraïque. Il y a un principe très important dans la poésie hébraïque, c'est la répétition, qui est aussi appelée le parallélisme. Pour nous, la répétition... Une fois ça va, deux fois, bon, mais après ça devient redondant, il faut passer à autre chose. Pour les Hébreux, la répétition, c'est le top de l'art littéraire. Toute la poésie hébraïque est construite avec ce parallélisme, avec cette répétition. Dans notre psaume, le psaume 103, il y a 22 versets qui s'est structuré selon l'alphabet hébreu qui a 22 lettres, et chacune chaque lettre correspond à un verset et chaque verset a deux phrases. Et ces phrases fonctionnent chacune avec ce principe de la répétition. Alors hier, j'ai passé ces choses en détail, je vais simplement rappeler très très rapidement les trois formes les plus courantes et voir comment elles peuvent éventuellement s'appliquer à notre texte. Le plus courant des parallélismes, c'est le parallélisme synonymique. On comprend tout de suite qu'il est question ici de synonyme. La même pensée de la première phrase est répétée dans la deuxième phrase avec d'autres mots, avec des mots synonymes. On comprend. Psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés », première phrase, « Il et ne nous rétribue pas selon nos fautes », c'est la même chose avec d'autres mots. Parallélisme synonymique. Un autre parallélisme très courant, c'est le parallélisme synthétique. J'ai pris un autre exemple du psaume 103. Ici, la même pensée va être répétée, mais on ajoute un élément nouveau. Ce n'est pas juste une répétition, point, c'est une répétition avec un élément supplémentaire. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit, c'est la répétition, à tous les imprimés, c'est l'élément supplémentaire qu'on ajoute. Et puis, un dernier parallélisme très répandu dans l'Ancien Testament, c'est le parallélisme antithétique, là aussi on comprend. C'est simplement que la deuxième phrase est l'antithèse, est le contraire de ce qui est affirmé dans la première phrase. Il n'y en avait pas dans le psaume 103, donc j'ai pris un proverbe, on a que l'embarras du choix. La langue des sages rend la justice aimable et la bouche des insensés répand la folie. C'est l'inverse, hein, si vous voulez. Il y a là les deux côtés d'un miroir. Tout le psaume 103 est construit comme ça, comme toute la poésie hébraïque. Alors qu'est-ce que ça donne pour notre verset 3 ? Quand nous arrivons au verset 3, si on passe les différents parallélismes, et il y en a d'autres, hein, je vous ai donné les plus, on les passe tous en revue, il y en a deux qui pourraient coller. Il y en a deux. Alors soit c'est un parallélisme synonymique, la deuxième phrase répète avec des mots synonymes ce qui a été dit dans la première phrase. Et donc, si c'est un parallélisme synonymique, maladie est dans ce cas-là un synonyme de péché. Ça veut dire qu'il répète la même chose, mais en utilisant l'image de la maladie pour parler du péché. Si c'est un parallélisme synthétique, c'est l'autre possibilité pour ce verset, alors il y a le prolongement de ce qui a été dit dans la deuxième phrase, et là, maladie peut avoir le sens de maladie. Ça peut avoir le sens de péché, mais ça peut aussi avoir le sens de maladie. Notons premièrement que la syntaxe ne permet pas de trancher. On regarde le texte, la grammaire, il n'y a rien qui fait pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Notons ensuite que, théologiquement parlant, il n'est pas faux de dire que Dieu guérit toutes nos maladies. C'est une vérité que l'Écriture affirme. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quand le fait-il ? Dieu guérit toutes nos maladies, mais quand le fait-il vraiment ? C'est une autre question. Nous savons que les maladies sont la conséquence de l'entrée du péché dans le monde, que Jésus est non seulement venu pour nous offrir le pardon de nos fautes, de nos péchés, mais il est aussi venu pour rétablir la création tout entière dans la perfection d'avant la chute. Le salut que Jésus est venu offrir, c'est bien plus que simplement nous sauver, nous, les êtres humains. C'est bien plus que cela. Ce salut, cette œuvre de recréation, c'est une œuvre qui concerne la création tout entière. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dira que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est la création dans sa globalité qui est concernée par l'œuvre de Jésus. Jésus est d'une certaine manière venu pour renverser la vapeur. Et en entrant dans le monde, le péché a été suivi de toutes sortes de conséquences néfastes. La mort et la maladie en font partie. Mais par son obéissance, on a parlé de typologie hier, je ne reviens pas maintenant là-dessus, mais par son obéissance, le deuxième Adam, qui est identifié comme Jésus dans le Nouveau Testament, s'est acquis le droit de racheter la création tout entière des conséquences du péché. Et en ce sens, il est juste de dire que Dieu, en Jésus, nous guérit de toutes nos maladies. Seulement, cela ne veut pas forcément dire que c'est toujours pour maintenant, pour ici-bas. Si nous disions que c'est déjà pour maintenant la guérison de toutes les maladies, que nous devons jouir maintenant de cet état sans maladie, alors nous devrions aussi jouir dès maintenant d'un état sans péché. Pourquoi ? Parce que les raisonnements sont identiques. Parce que Jésus est mort pour nos péchés, de la même manière qu'il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, dit le prophète Ésaïe. Cependant, vous et moi, nous savons combien le péché est attaché à notre condition humaine. Ce n'est en réalité que dans la gloire que nous serons à jamais débarrassés de notre nature pécheresse et du péché. Pourtant, le Christ a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour cela. Et ça a été, je ne sais plus si c'était dans le canevas de ce matin ou celui de hier, les théologiens parlent, pour essayer d'articuler tout ça, ils parlent du déjà et du pas encore, de ce que l'on a déjà maintenant comme conséquence à l'œuvre du Christ et ce que l'on n'a pas encore. Tout a été accompli, il y a des choses qui sont accomplies maintenant, il y a des choses dont nous attendons l'accomplissement. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons à jamais débarrassés du péché. En Jésus, nous possédons pleinement cette victoire sur le péché. Tout est accompli. Pourtant, nous devons attendre l'accomplissement de toutes choses pour jouir pleinement de cet état sans péché. Et mon postulat ce matin, c'est que je crois qu'il en est de même pour la maladie. Il n'est donc pas faux d'affirmer que Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Mais tout est question de chronologie. Ce qui devait être fait pour cela l'a été fait et parfaitement fait à la croix de Golgotha. Mais nous devons attendre, comme pour le péché, l'accomplissement de toutes choses pour pouvoir bénéficier de cet état de restauration, cet état sans péché, sans maladie, de retour d'une certaine manière à la perfection avant la chute. Nous devons attendre d'être auprès de Christ pour vivre la réalité de la perfection que Christ a regagnée à la croix. Alors revenons à notre verset 3. Comment le comprendre ? C'est mon sentiment personnel. Je crois personnellement que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le psalmiste utilise le parallélisme synonymique. David redit le pardon total de Dieu en utilisant le mot maladie comme synonyme du mot péché. D'ailleurs, le péché n'est que la maladie de l'âme, d'une certaine manière. Comprendre le texte ainsi, ce n'est pas dire que Dieu ne guérit pas et qu'il ne guérit pas aujourd'hui, mais c'est simplement dire que le texte ne parle pas de cela. Ce n'était pas ce que David voulait dire à ce moment-là. Je le redis, je crois que Dieu guérit. Les Écritures, d'ailleurs, nous présentent l'Éternel comme Yahvé Raphé, le Dieu qui te guérit, l'Éternel qui te guérit. Et il est tout à fait possible de comprendre ce texte comme parlant de guérison. Ce serait alors un parallélisme synthétique. Il est possible de comprendre que David, ici, stimule son âme à dire du bien de Dieu parce que Dieu l'a physiquement guéri. C'est tout à fait envisageable. On ne trahit pas le texte si on va dans ce sens-là. Mais si tel est le cas, alors il est important de ne pas faire le pas de trop. Il est important de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Le texte ne dit pas que Dieu doit toujours guérir toutes les maladies de tout le monde. Le texte ne nous dit pas ça, bien évidemment. N'oublions pas que David se parle à lui-même, il parle à son âme. S'il est question de maladies, ce sont les maladies de David dont il est question ici quand il dit « qui guérit toutes tes maladies ». Il parle à son âme. Si nous croyons que ce verset parle de guérison, alors nous devons simplement dire avec le texte que chaque guérison de notre corps est en réalité une guérison divine. Il n'y a en réalité pas de guérison en dehors de la grâce de Dieu. C'est effectivement Dieu qui toujours nous guérit de toutes nos maladies, quels que soient les moyens que nous utilisions pour y parvenir. Chaque maladie guérie sur cette terre est l'œuvre de la grâce de Dieu, qui renverse les conséquences de la chute dont la maladie fait partie. C'est la conséquence de ce que Jésus a acquis à la croix, lui qui est le premier-né, c'est une image, de la nouvelle création, dira l'apôtre Paul. Il est le chef de file d'une nouvelle humanité, une humanité qui a été rachetée et qui sera un jour complètement débarrassée de toutes les conséquences néfastes de l'entrée du péché dans le monde. Alors en ce sens, il est juste de dire avec le psalmiste, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Amen. C'était pas facile de trouver un cantique